Mariam Bawardi en religion Sœur Marie de Jésus crucifié, 1846-1878, l'abbé Philippe Beitia nous parle de cette religieuse carmélite déchaussée, connue pour diverses manifestations mystiques, qui a vécu un temps dans notre diocèse.
Sainte Marie, Sainte Mariam de Jésus crucifié. Elle naît en 1846 et meurt en 1878. Nous nous inspirons dans cette conférence des écrits du père Amédée Bruno de Bétharam et de quelques carmes et carmélites. Mariam Bawardi naît dans le foyer de Georges Bawardi et de Mariam Chahin. Ce sont des Libanais qui ont fui la persécution ottomane et qui se sont implantés dans le village d'Abéline, aujourd'hui Ibiline, en Haute-Galilée. Ils seront les parents de 12 garçons, mais qui ne survivront pas. Ils font un pèlerinage à Bethléem, à 170 km de chez eux, pour demander une fille à la Vierge Marie. Cette prière sera exaucée. Le 5 janvier 1846 naît la petite Mariam. Elle sera baptisée, confirmée, et on lui donnera la communion. C'est la pratique des églises orientales, catholiques et orthodoxes, le 15 janvier de la même année. Mais en 1848, les parents de Mariam meurent. Cette dernière sera recueillie par un oncle habitant le même village. Elle est choyée dans cette famille aisée, mais elle recherche la solitude. Elle constate que tout passe sur terre et que le Dieu si grand, si beau, si aimable n'est pas aimé. Elle le contemple dans la beauté de sa création. Dès l'âge de 5 ans, elle jeûne en cachette et se confesse le samedi en honneur de la Vierge Marie. À cette époque, les filles ne sont pas scolarisées en Orient. Mariam va donc apprendre à être une maîtresse de maison en accomplissant les tâches ménagères. On marie les filles dès qu'elles sont nubiles. À l'approche de ses 13 ans, Mariam est promis en mariage par son oncle à un parent. La veille de ses noces, au cours d'une nuit de prière devant l'icône de la Vierge, elle décide de n'appartenir qu'à Jésus. Cela suscitera la colère de son oncle et lui vaudra d'être confinée à la cuisine et de se voir confier les travaux les plus ingrats. Son confesseur va jusqu'à lui refuser l'absolution ainsi que la communion pour cause de désobéissance. Elle va fuir et pour cela contacte un musulman, ancien serviteur de la famille. Ce dernier la pousse à se convertir à l'islam. Mariam refuse et affirme fortement son appartenance au Christ et à l'Église. Le musulman l'égorge et, aidé de sa mère et de sa femme, se débarrasse du corps de la jeune fille dans une ruelle obscure. Cela a lieu dans la nuit du 7 au 8 septembre 1858. Voici ce que Mariam racontera plus tard à sa maîtresse des novices. « Je me suis trouvé au ciel. J'ai vu la Sainte Vierge, les anges, les saints m'accueillir avec une grande bonté. Et je voyais aussi mes parents en leur compagnie. Je voyais le trône éclatant de la très sainte Trinité, Jésus-Christ notre Seigneur en son humanité. Point de soleil, point de lampe. Mais c'était brillant de clarté. Alors quelqu'un me dit « Vous êtes vierge, c'est vrai, mais votre livre n'est pas achevé. » La vision disparaît. Mariam se retrouve dans une grotte. Près d'elle, une religieuse aux vêtements d'azur. Elle lui dit l'avoir ramassée dans la ruelle, l'avoir portée dans cet abri et avoir cousu le cou tranché. Cette mystérieuse sœur aux habits bleus se montre d'une délicatesse extraordinaire. Elle parle très peu, elle lui met les lèvres de la jeune fille avec du coton, elle la fait dormir. Elle ne ressemble à aucune autre religieuse. Un jour, l'infirmière inconnue lui prépare une soupe si délicieuse que la convalescente en redemande avec gourmandise. Toute sa vie, elle en gardera le goût. Vers la fin du séjour dans la grotte, l'infirmière trace à Mariam son programme de vie. « Vous ne reverrez jamais votre famille. Vous irez en France où vous vous ferez religieuse. Vous serez l'enfant de Saint-Joseph avant de devenir la fille de Sainte-Thérèse. » Vous prendrez l'habit du Carmel dans une maison, vous ferez profession dans une seconde, vous mourrez dans une troisième à Bethléem. » Quand la blessure fut cicatrisée, la religieuse fit sortir Mariam de la grotte. Elle la conduisit dans l'église Sainte-Catherine, desservie par les franciscains. Elle appela un confesseur. Quand Mariam sortit du confessionnal, elle se retrouva seule. L'infirmière aux vêtements d'azur avait disparu. En 1874, en la fête de la Nativité de Notre-Dame, le 8 septembre, anniversaire du martyr et du miracle, Mariam dira en extase : « En pareil jour, j'étais avec ma mère. En pareil jour, j'ai consacré ma vie à Marie. On m'avait coupé le cou, et demain, Marie m'avait prise. » Ce témoignage extraordinaire de Mariam est confirmé par le sérieux, la sincérité et l'humilité de toute sa vie, comme l'attestent les témoins. Mariam gardera une voix rauque ainsi qu'une large cicatrice au cou, très surprenante d'un point de vue médical. Un franciscain place Mariam comme domestique dans une famille chrétienne. Elle ira de famille en famille, cherchant à demeurer inconnue, cultivant la pauvreté. Elle redistribue son salaire aux malheureux. Elle quitte une bonne place pour venir en aide à une famille réduite à la misère par la maladie. Elle fait tant et si bien que cette famille se rétablit en 5 semaines. Mariam la quitte alors sans plus tarder. Elle se joint à des pèlerins qui gagnent Jérusalem, où elle se trouvera faussement accusée d'avoir volé son employeuse. Traînée dans les sauges, jetée en prison au milieu de femmes peu recommandables, elle est libérée 2 jours plus tard, la coupable s'étant dénoncée. Mariam poursuit son voyage. La tempête détourne son bateau sur Beyrouth, où elle est à nouveau accusée injustement de vol. Elle est frappée de cécité durant 40 jours. Elle demande à la Vierge de retrouver la vue, ce qu'elle obtient. Une autre fois, lors qu'elle étend du linge, elle tombe d'une terrasse. Les médecins la considèrent comme condamnée. Ses maîtres la soignent avec dévouement et grande affection. Un mois après, devant sa petite veilleuse, elle voit la Vierge qui lui recommande l'obéissance, la charité et la confiance en Dieu. Un parfum et une lumière envahissent la chambre, elle est guérie. Une multitude de grâces mystiques extraordinaires jalonnera toute sa vie. Elle continue à être domestique, elle marque par sa bonté. Une famille libanaise l'invite à aller se mettre au service de l'une de ses filles à Marseille. Mariam y arrive début mai 1863, elle a 18 ans. Mais elle voudra répondre à sa vocation à la vie religieuse et frappera à la porte des filles de la charité des Clarisses. Elle ne sera admise ni chez les unes ni chez les autres, d'une part parce qu'une dame qui l'employait voulait la garder, d'autre part à cause de sa santé. Elle fait un nouvel essai en s'adressant aux sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition à la Capelette dans la banlieue de Marseille. Elle ne sait ni lire ni écrire et ne parle qu'arabe. On l'accepte car le noviciat compte quelques palestiniennes et que la congrégation a de nombreuses communautés en Orient. Elle devient la petite arabe. Elle marque par sa spontanéité et sa candeur. Son service est apprécié. Elle choisit ce qu'il y a de plus dur et de plus ingrat. Extase et stigmate marquent cette étape de sa vie. Sa supérieure lui interdit d'avoir des extases pour sauvegarder la sérénité et la vie régulière de la communauté. L'obéissance les fait cesser. Cela inquiétera toutefois les religieuses qui ne l'admettront pas aux noviciats. Comme la maîtresse des novices, Mère Véronique, obtenue du Saint-Siège de quitter la congrégation Saint-Joseph pour entrer au Carmel de Pau, elle propose à Mariam de la suivre et de la présenter à la prieure de cette maison. Cette dernière l'admet. Mariam a 21 ans. Les deux sœurs y arrivent dans l'après-midi du 15 juin 1867, au moment où l'on célèbre les premières vêpres de la fête de la Sainte Trinité. Mariam ignore tout du Carmel. Se réalise la parole de la Vierge, vous serez l'enfant de Saint-Joseph avant de devenir la fille de Sainte-Thérèse. Lors de la fête de la Visitation, le 2 juillet, elle est admise parmi les novices et prend le nom de Sœur Marie de Jésus crucifié. Voici le portrait qu'en fait Mère Véronique, devenue au Carmel, Mère Marie-Véronique. À la voir, on ne lui aurait pas donné plus de 12 ans. Sa petite taille, sa figure candide, sa difficulté à s'exprimer en autre langue, sa profonde ignorance de toutes choses, car elle ne savait même pas lire, ni en arabe ni en français, tout cela réuni en faisait un vrai type de l'enfance. Aussi ne pouvons-nous guère la désigner entre nous que sous le nom de la petite sœur. Cependant, chose surprenante, elle joint à cette simplicité la plus grande sagesse, un esprit droit, un jugement exquis, beaucoup de discernement et l'expérience d'une personne âgée, et, si elle est dénuée de talents acquis, nous ne fûmes pas longtemps à nous convaincre que son cœur et son esprit étaient riches des dons qui font les grandes âmes. Cette sœur converse, à cette époque c'était des sœurs dont la vie était plus orientée vers les tâches matérielles de la vie communautaire, se dépense avec ardeur, travaux du jardin, de la cuisine, de la buanderie. Sa conversation lors des récréations est appréciée, assaisonnée de l'esprit de l'Évangile, avec une saveur tout orientale. Son humilité, son obéissance, sa charité marqueront la communauté. L'oriental qu'elle est manifeste sa joie, sa vivacité, et n'hésite pas à embrasser les mains de ses compagnes et à les embrasser affectueusement. Elle bénéficiera de dons mystiques nombreux et spectaculaires, extase, lévitation, stigmate, transverbération du cœur. Ce terme désigne le transversement spirituel du cœur par un trait enflammé d'amour. Apparition, prophétie, connaissance mystérieuse, bilocation, c'est-à-dire le fait d'être présent pour une personne en même temps dans plusieurs lieux. Possession angélique, attaque du démon. Elle manifestera aussi un grand sens poétique. Elle bénéficiera de l'aide et du discernement en ces circonstances de Mère Élie de Jésus, un temps prieur du Carmel de Pau, de l'évêque de Bayonne, Monseigneur Lacroix, du supérieur du séminaire de Bayonne, M. Manaudas, bon théologien, capable de discerner ce qui se passe dans les âmes, du curé de Saint-Martin de Pau, supérieur du Carmel, du père Estrate, Bétharamite, qui sera son directeur spirituel. En 1866, l'évêque de Mangalore visite le Carmel de Pau lors d'une visite en France. Il rêve d'établir un Carmel missionnaire à Mangalore. Ce serait un témoignage pour ces masses pauvres de l'Inde avides de spiritualité. Il insiste pour qu'on lui cède Mariam, qui rêve elle aussi de vivre cette aventure apostolique. Il l'obtient. Des 6 carmélites partis de Pau, il n'en arrive que 3 à Mangalore le 19 novembre 1870. L'évêque demandera et obtiendra des renforts des Carmels de Bayonne et de Pau. Les premiers mois seront idylliques pour sœur Mariam qui va s'adonner aux travaux de la cuisine, du jardin et du lavoir, tout en continuant ses pratiques de pénitence et en étant tourmentée par le démon jusqu'au 30 juin 1871, date où elle reprend ses montées spirituelles vers Dieu. Elle fait sa profession perpétuelle le 21 novembre 1871 en la fête de la présentation de la Vierge Marie. Comme sur indication du Seigneur, elle ne veut pas rendre compte à la supérieure du Carmel de sa vie spirituelle, elle doit souffrir de l'inimitié de cette dernière et aussi de l'évêque de Mangalore qui dira que ce qu'elle vit provient du démon. Elle est renvoyée au Carmel de Pau qu'elle rejoint le 5 novembre 1872. À Mangalore, carmélite et évêque se rendront compte qu'ils se sont trompés lourdement sur le compte de Mariam. Ce second séjour à Pau sera un temps d'intense vie spirituelle pour Mariam et de grandes expériences mystiques extraordinaires. Elle rêve d'un Carmel à Bethléem et est confortée en cela par des visions. Après avoir trouvé quelqu'un qui financera le projet et obtenu les autorisations de l'évêque et du Saint-Siège, elle parvient à Bethléem au terme d'un voyage pèlerinage le 11 septembre 1875. Elle y visite la grotte de la Nativité. Le Carmel sera construit entouré d'interventions divines. Sœur Mariam de Jésus crucifié est désignée comme surveillante des ouvriers, le curé de Bethléem contrôlant le chantier. Elle travaillait aux plus gros ouvrages, ou bien elle allait s'occuper des ouvriers, surveiller les femmes qui portaient de l'eau pour la bâtisse, et tous ces pauvres gens l'aimaient extraordinairement. Elle tâchait de leur faire du bien, de leur rendre quelques services. Elle leur donnait de bonnes paroles, si elle n'avait pas d'autre chose. Et cependant, elle leur disait la vérité quand elle s'apercevait qu'ils volaient ou trompaient, ce qui n'était pas chose rare, témoignera Mère Véronique. Ayant reçu en avril 1878 l'autorisation de fonder en Carmel à Nazareth, elle a l'occasion de revoir son village natal d'Abéline. Elle sera aussi à l'origine de la fondation à Bethléem d'une maison des pères de Betharam. Il est à noter qu'elle peut être considérée comme leur seconde fondatrice, ayant obtenu de Monseigneur Lacroix et de Rome que leur congrégation soit de droit pontifical, relève directement du Saint-Siège et puisse avoir ainsi liberté d'action et rayonnement international, ce que Saint-Michel Garicoïs n'avait pu obtenir suite à l'aveuglement et à l'obstination de l'évêque de Bayonne, Monseigneur Lacroix. En juillet 1878, des crises d'étouffement apparaissent. Ma sœur Marie de Jésus crucifié continue à beaucoup souffrir. Néanmoins, elle se traîne toujours au travail avec des efforts inouïs et un dévouement admirable. Le jour où sont écrites ces lignes, elle tombe en portant de l'eau aux ouvriers et se fracture le bras. Son état de santé s'aggrave rapidement et après 4 jours de grande souffrance, à l'aube du 26 août 1878, elle remet son âme à Dieu. Sœur Mariam a fait dans sa vie spirituelle l'expérience de la présence et de l'action de l'Esprit-Saint. Elle s'est livrée à l'action de l'Esprit-Saint avec une simplicité d'enfant. Ainsi, chaque événement de sa vie a trouvé en lui sa lumière, l'aidant ainsi à connaître la volonté de Dieu et à la suivre. « Ce matin, écrira-t-elle, j'étais peinée parce que je ne sentais pas Dieu. Il me semblait que mon cœur était comme du fer. Je ne pouvais pas penser à Dieu. Et j'ai invoqué le Saint-Esprit et j'ai dit, « C'est vous qui nous faites connaître Jésus. » Les apôtres sont restés longtemps avec lui sans le comprendre, mais une goutte de vous le leur a fait comprendre. Vous me le ferez comprendre aussi. Venez ma consolation, venez ma joie, venez ma paix, ma force, ma lumière. Venez éclairer moi pour trouver la source où je dois me désaltérer. Une goutte de vous me suffit pour me montrer Jésus tel qu'il est. Et j'ai senti le feu allumé dans mon cœur. L'Esprit Saint ne me refuse rien. Sa vie, Mariam l'a remise à l'Esprit Saint. Esprit Saint, éclairez-moi. Que dois-je faire? Et de quelle manière trouver Jésus? S'écrie-t-elle. Elle attend tout de lui. C'est l'Esprit-Saint lui-même qui l'a conduit dans cette voie d'intimité avec le Christ, en témoigne la prière qu'il lui a inspirée. Esprit-Saint, inspirez-moi. Amour de Dieu, consumez-moi. Au vrai chemin, conduisez-moi. Marie, ma mère, regardez-moi. Avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de toute illusion et tout danger, préservez-moi. L'Esprit inspire tout. Nos pensées, nos actions et notre prière. Il nous relie à Dieu et à nos frères. Mariam est un témoin de la force de ce souffle au quotidien. Les fruits concrets de cette œuvre de l'Esprit sont l'humilité et la charité. L'une et l'autre vont de pair. Comment faire pour acquérir, mon Dieu, votre amour véritable? Alors, ce Dieu Tout-Puissant s'est abaissé vers moi, qui ne suis qu'une petite poussière. Voici comment il m'a fait comprendre. Une âme qui veut avoir le véritable amour de Dieu désire que le bon Dieu soit aimé de tous. L'humilité pour Mariam est la condition même de la sainteté. Aujourd'hui, la sainteté, ce n'est pas la prière, ni les visions, les révélations, ni la science de bien parler, ni les cilices, ni les pénitents, c'est l'humilité. Point d'attention aux grâces exceptionnelles ni aux excès de zèle spirituel de son temps. L'important est cet abandon en toute chose à l'amour du Seigneur. Mariam se reconnaissant petite, le Seigneur a pu réaliser son œuvre en elle. Et Mariam d'ajouter, au ciel, les plus beaux arbres sont ceux qui ont le plus péché, mais ils se sont servis de leur misère comme d'un fumier qui entoure le pied. Voilà qui est source d'espérance et terriblement redoutable. Dieu se sert de tout pour nous sanctifier, y compris, surtout, de notre péché, qui déposait à ses pieds le terreau de notre humilité, et donc de notre sainteté. La charité est l'autre fruit de l'Esprit-Saint. Il s'agit d'un amour inconditionnel pour le Seigneur, et d'une attention permanente à la vie de ses proches. Il n'y a que l'amour qui puisse remplir le cœur de l'homme, nous dit Mariam. Peu à peu, unifié intérieurement par l'Esprit-Saint, sa vie est devenue appel à la communion, à l'unité et à la charité concrète. Quand vous voyez une déchirure à l'habit d'une autre, ne déchirez pas davantage, dit-elle, mais coupez un morceau de votre habit pour raccommoder le trou. Jésus vous revêtira de la robe nuptiale. J'entendis une voix me dire, « Le monde et les communautés cherchent des nouveautés dans les dévotions et négligent la véritable dévotion au paraclet. C'est pour cela qu'il y a l'erreur, la désunion et qu'il n'y a pas la paix et la lumière. » On n'appelle pas la lumière comme elle devrait être appelée, et c'est elle qui fait connaître la vérité. Même dans les séminaires, on la néglige. Ces deux citations illustrent l'attention concrète au prochain demandée par Mariam et l'importance de la communion, fruit de la dévotion au paraclet, au Saint-Esprit. Dans un discours adressé le 14 novembre 1983 aux pèlerins venus pour la béatification la veille de Mariam, Jean-Paul II en trace la physionomie spirituelle. La vie et les vertus de Mariam Bawardi vous sont maintenant suffisamment connues et je les ai évoquées dans la solennelle liturgie d'hier. Mais il est bon de nous redire ce matin à quel point cette petite arabe a été un témoin privilégié de Jésus, de l'amour de l'Église, de l'action pour la paix. Et vous comprendrez mieux encore le prix que l'Église attache à la vie de vos communautés chrétiennes en Terre Sainte et autour de la Terre Sainte. Mariam est le fruit de cette Terre Sainte. En elle, tout nous parle de Jésus, et d'abord les lieux où elle a vécu. Nazareth, près de laquelle elle est née. Bethléem, où elle a consommé son sacrifice. Le mont Carmel, symbole de la vie de prière solitaire qui a fourni le cadre de sa vie religieuse. Mais surtout, elle nous rapproche du calvaire puisqu'elle n'a cessé de porter dans sa vie la croix de Jésus, tout en choisissant son nom de crucifié. Les béatitudes trouvent en elles leur accomplissement. À la voix, on croit entendre Jésus nous dire « Bienheureux les pauvres, bienheureux les humbles, bienheureux ceux qui ne cherchent qu'à servir, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui font la paix, bienheureux ceux qui sont persécutés. » Toute sa vie traduit une familiarité inouïe avec Dieu, l'amour fraternel des autres, la joie qui sont les signes évangéliques par excellence. Sœur Marie de Jésus crucifié se montre en même temps une fille hors pair de l'Église. Elle reflète les différents visages de l'Église. L'Église grecque melkite, dans laquelle elle a été baptisée et élevée. L'Église latine, où elle a été initiée à la vie carmélitaine. En dehors de son pays natal, elle s'est insérée dans les communautés chrétiennes du Liban, de l'Égypte, de la France, de l'Inde. Elle a partagé l'ardeur missionnaire de l'Église, sa soif d'unité, l'attachement à ses pasteurs, et notamment au pape Pie IX. Car l'Église doit être une dans la diversité et dans la richesse des langues, des cultures et des rites. Enfin, elle qui a été souvent malmenée par les événements et par les gens, elle n'a cessé de semer la paix, de rapprocher les cœurs. Elle se voulait la petite sœur de tous. Comme son exemple est précieux dans notre monde déchiré, divisé, qui sombre si facilement dans l'injustice et la haine, sans tenir compte des droits des autres et une existence digne et paisible. Le 17 mai 2015, lors de sa canonisation, le pape François notera dans son homélie « De cet amour éternel entre le Père et le Fils qui se répand sur nous par l'Esprit-Saint, notre mission et notre communion fraternelle prennent de la force. » De là jaillit toujours nouvelle la joie de suivre le Seigneur sur la voie de sa pauvreté, de sa virginité et de son obéissance. Et ce même amour appelle à cultiver la prière contemplative. Sœur Marie Bawardi l'a expérimenté de manière très élevée, qui, humble et illettrée, a su donner des conseils et des explications théologiques avec une grande clarté, fruit du dialogue continuel avec le Saint-Esprit. La docilité à l'Esprit-Saint l'a rendue aussi instrument de rencontre et de communion avec le monde musulman. L'oraison de la messe de la Sainte nous fera demander « Dieu Père des miséricordes et de toute consolation, tu as conduit Sainte Marie de Jésus crucifié, humble fille de la Terre Sainte, à la contemplation des mystères de ton Fils, et tu as fait d'elle le témoin de l'amour et de la joie de l'Esprit-Saint. Par son intercession, accorde-nous en communion aux souffrances du Christ d'exulter de joie dans la révélation de ta gloire. »
Merci à l'abbé Philippe Beitia pour cette présentation de Sœur Marie de Jésus crucifié, Mariam Bawardi, canonisée le 17 mai 2015 et célébrée chaque année dans le calendrier de l'Église au 26 août.